Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Un tel gouffre semble séparer Jeanne de l'artiste Marina Abramović, tant dans leur comportement que dans leur mode de vie, que l'on ne peut qu'être interloqué devant l'admiration, la passion même que développe la première pour l'artiste. Oui, interloqué et intéressé. Que se cache-t-il derrière la vie douillette et paisible de Jeanne? Que se cache-t-il derrière le front sage de cette jeune femme, jolie, discrète et plutôt conformiste? C'est avec sensibilité, justesse et souvent humour qu'est peint le décalage qui peut exister entre ce que nous voyons, ce que nous croyons comprendre et ce qui est la réalité. Le réalisateur japonais Akira Kurosawa dit « C'est le propre des grands peintres que de voir au-delà des apparences. Ils veulent capter cette chose mystérieuse. » Claude Galet va bien au-delà des apparences, encore une fois, dans son nouveau roman « La beauté des jours » paru chez Actes Sud. Claude Galet, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors votre personnage, Jeanne, c'est vrai, elle est sympathique, elle paraît sage. Mais elle est sage. En fait, commençons par elle est sage. Elle est sage à tout point de vue.
Oui, elle a. C'est une femme très généreuse qui s'est consacrée depuis toujours à ses enfants, à son mari, qui a un métier banal. Elle travaille à la poste. Il n'y a pas beaucoup de en apparence. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans sa vie.
Elle sait quand même apprécier ce qu'elle a autour d'elle, en apparence, on va dire, pour l'instant, mais elle sait apprécier son mari, ses filles.
Ah oui, elle les aime oui. Absolument. Elle aime ses filles, elle aime son mari. Rémi oui. Est un mari très attentionné, elle est très attachée à lui. Elle oui. Aime ses oui. Parents, oui. Elle aime sa sœur, elle aime sa nièce.
Et même avec son collègue de travail, Nicolas, qui est profondément ennuyeux, elle est bienveillante.
Oui, c'est un... Oui, je reviens à ce que je disais au tout début. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui oui. Aime les autres. Oui. C'est quelqu'un qui aime et qui ne veut pas faire de mal.
Voilà. Qui veut, et puis, elle a aussi... quand vous dites qu'elle ne veut pas faire de mal, vous parlez d'elle aime sa famille. En même temps, il y a tellement de propos négatifs qui circulent, on se dit qu'elle est admirable. Mais elle a une sensibilité, elle a cette bienveillance. Elle a aussi... une capacité d'émerveillement. Alors ça m'a frappée parce que je viens de lire il n'y a pas longtemps un livre de Christophe André disant qu'il fallait garder notre capacité d'émerveillement et je le crois. Regarder comme si on était étranger à ce monde et regarder ce qui se passe. Quoi.
Essayer de ne pas perdre le regard de l'enfant.
Voilà.
Le regard ouais. De l'enfance, de l'enfant qui s'émerveille, qui voit une fleur, qui voit un papillon, qui voit la neige qui tombe et savoir que tout cela... nous est donné, mais pour nous être repris à un moment. Et donc, pas perdre cet émerveillement-là. Oui, oui. Vieillir, c'est oui. Ce qui est terrible. Vieillir, on peut vieillir à 20 ans.
Oui,
c'est quand on
fait.
Perd l'émerveillement.
Oui. Oui, oui.
Et il y a des
oui,
vieillards oui. Qui sont encore le regard lumineux parce que, justement, oui. Ils sont encore émerveillés oui. Par l'autre.
Oui, oui, exactement. Et qui sont heureux de voir quelque chose de nouveau, par exemple. Oui. Alors, elle est sage. On a bien dit en apparence. Mais en même temps, elle est originale. Et ça, on va le découvrir. Et vous nous aider à nous poser des questions quand nous croisons quelqu'un, même dans la rue, se dire « bon, mais qu'est-ce qui se passe dans le crâne de cette personne, finalement ?» C'est ça qui est intéressant, dans le fond.
C'est ce qu'elle fait, Jeanne. Elle regarde beaucoup.
Oui.
Elle regarde les
elle
autres.
Elle observe. Hein.
Elle observe. Elle est très observatrice. Elle écoute. Elle suit les gens dans la rue, pour simplement pour le plaisir de voir où ils vont, où les pas de l'autre nous mènent, où les pas de l'autre nous guident. Elle s'amuse de son quotidien.
Elle se pose beaucoup de questions aussi, des questions originales. Par exemple, elle dit « à la moitié de ma vie, que vais-je faire de l'autre moitié ?» C'est une bonne question.
C'est une question essentielle.
Oui.
Elle a 43 ans, elle a fait grandir ses filles. Ça fait 20 ans ses filles ont 20 ans et s'en vont doucement. Elles quittent doucement la
maison. Et harmonieusement.
Et harmonieusement. Ça se fait en douceur. C'est pas « je m'en vais loin », elles ne s'en vont pas loin. Elles s'en vont simplement dans la ville d'à côté. Il y a quoi ? Une cinquantaine de kilomètres. C'est pas le bout du monde, ça se fait en douceur. C'est une séparation lente et douce, mais qui libère du temps à Jeanne. Et Jeanne se pose cette question essentielle. Ouais. Qu'est-ce que je fais du oui. Temps qu'il me reste ?
Ou qui décide qu'on doit aimer ses parents aussi ? Elle se pose ces questions-là.
Ça, c'est une question plus dure.
Oui. Elle a... Et puis alors, ce qui... intrigue, qui amuse aussi, ce sont ces impulsions. Vous avez parlé de, bon, elle se met tout d'un coup, elle se met à suivre quelqu'un, mais sans idée, malhonnête, elle se met à suivre quelqu'un dans la rue. Elle a des jeux d'adolescente, finalement, c'est cette capacité de garder cette jeunesse d'esprit.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas perdre. Jeanne, adulte, n'a pas perdu au fond d'elle, même si pendant 20 ans, ça a été un petit peu mis en sourdine. Cette fantaisie-là, elle la retrouve, elle la laisse revenir. Elle retrouve en fait cette gamine, un peu de celle qu'elle était quand elle avait 15 ans et qu'elle... oui, cette insouciance.
En même temps, alors c'est moi qui me forge, les lecteurs dans le fond se forgent un personnage également, parce que je me dis que dans le fond, elle a toujours laissé de la place à l'imaginaire et au rêve. Sans doute.
Je pense qu'elle a... Elle n'a pas étouffé cette part, elle ne l'a pas perdue de vue. La plus grande des fidélités, et peut-être la plus difficile à avoir, c'est la fidélité à ce que l'on est, à soi-même. Ne pas perdre de vue qui on est profondément. Chaque être est très très différent, on est tous très très différents les uns des autres. Mais parfois, on perd de vue qui on est fondamentalement. Et Jeanne, elle ne l'a pas perdue. Elle se donne encore le droit de s'amuser comme une adolescente, des petites choses, de changer de place à table, des rituels. Il y a beaucoup de rituels dans sa vie.
Oui, et il y a quelque chose, j'ai trouvé ça très symbolique, l'histoire du cadre blanc. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle veut sortir du cadre ? Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose là, pour moi en tout cas, d'assez symbolique, cette histoire de cadre.
Probablement qu'elle veut sortir du cadre. En tout cas, je pense que quand on vient au monde, on ne vient pas au monde tout seul, sans rien. On a avec nous nos parents, l'histoire de nos parents, on a nos grands-parents, on a les silences, les fortes beautés qui nous ont aussi, qui nous donnent. Et avec ce bagage de naissance, on va continuer notre vie. Jeanne, elle a un bagage de naissance, une famille très rurale, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec une histoire douloureuse, avec une relation au père très particulière. Mais à partir de ce bagage qui nous est donné, on a une marge de liberté qui n'est pas énorme, ce que vous appelez le cadre, mais qui existe quand même. Et Jeanne, elle s'amuse dans cette marge de liberté, elle s'amuse dans cette largeur de cadre. Et je pense qu'avec ses coudes, elle a envie d'étirer un petit peu ses cadres, elle a envie de sortir un petit peu de ce... Bon, c'est une vie très routinière. C'est
une vie...
Elle n'a pas de douleur, elle a pas de... Elle a un mari très aimant, on répète, des filles...
Très, très plate.
Sans fantaisie. Et donc, elle a envie de plus. Jeanne est quelqu'un qui a envie de s'échapper. En fait, c'est ça.
Alors, elle a aussi dans ses affinités, parce qu'il y a la grand-mère qui a les mêmes peurs, les mêmes obsessions, dites-vous dans votre ouvrage, que Marina Abramović, qui a des aphorismes étonnants, je ne les citerai pas, qui est une originale, qui va organiser et rater sa mort. Là, j'avoue que j'ai trouvé ça excellent, plein d'humour. Il y a cette grand-mère quand même qui est peu banale. Il y a sa nièce qui est handicapée, on ne sait pas quel degré, mais qu'en fond, c'est une poète, un poète. Elle est hors norme, mais justement, elle est hors norme. Il y a son amie aussi, Suzanne. Moi, j'ai un grand faible sur son amie qui a un langage de charretier, mais qui est pleine de vie, dans le fond, de réaction.
Suzanne est un personnage que j'aime beaucoup. Pour moi, ce ne sont pas des personnages secondaires, gravitent autour de Jeanne. Suzanne, c'est un personnage fort, c'est une femme, elle est seule, son mari l'a plaquée. Elle se débat avec ça, elle se débat avec son corps rude, c'est une grande bonne femme. Elle se dégage avec un langage, comme vous dites, un langage de charretier. Elle a mal, elle le dit, quand elle fait la leçon aux gamins du quartier, elle emploie pas des mots doux, elle adoucit pas, elle y va carrément. Et c'est vrai qu'elle est un peu le miroir de Jeanne. Jeanne est tout en retenue apparente et Suzanne, elle n'a pas de vernis, elle force un peu le trait.
Et en même temps, elle donne aussi, enfin on en parlera peut-être plus, sans doute plus tard, il me semble qu'elle montre sa souffrance, Suzanne, et on peut imaginer, là je saute quelques étapes, mais la souffrance que Jeanne pourrait provoquer chez son mari aussi.
Peut-être.
Sûrement qu'il y a ici, dans le regard de Jeanne sur son amie qui a mal.
Qui a été abandonnée.
Abandonnée, elle a été quittée. Suzanne, elle prouve que rien ne dure. Que cet amour magnifique qu'elle avait avec son homme, parce que c'est son homme, on sent que c'est une relation très physique, très charnelle. Cet amour qui devait durer toujours, finalement, il est terminé. Et en rebond, en miroir, on a l'histoire de Jeanne et de son mari. Et qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, c'est les choix, c'est la culpabilité, c'est la relation à l'autre.
Oui, ah oui, absolument. Alors, il y a la famille. Et la famille, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette amie? Là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de place, apparemment, pour le rêve et la poésie. Bon, ce sont des robustes et rudes fermiers. Mais je trouve que la mère est terrible, elle n'a pas d'ambition pour ses enfants. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Elle dit qu'il faut rester à sa place, il ne faut pas bouger.
Oui, mais il ne faut pas la juger. Moi, je ne la juge pas du tout. Oui, elle dit ça. Quand elle dit à sa fille qu'il ne faut pas avoir d'ambition, qu'on est né pour vivre une vie et qu'il ne faut pas chercher à en vivre une autre, je crois que ce n'est pas pour... C'est pas pour étouffer, même si elle étouffe l'ambition de sa fille. C'est pour protéger, pour pas que l'enfant soit déçu. Je crois que je me suis beaucoup approchée, j'ai beaucoup pensé au personnage de la mère. Je pense qu'elle fait ça. Elle tient ses propos parce que elle pense, elle, par rapport à la vie qu'elle a, que si elle encourage ses enfants, ses filles, parce qu'elle n'a que des filles, si elle encourage ses filles à s'élever, à avoir plus d'ambition, il peut y avoir de la déception. Et la mère a peur de la déception pour les filles. Moi, je la comprends comme
Vous êtes plus indulgente que moi.
Très indulgente pour les parents.
Moi, je me dis que parfois, les mères veulent dans leurs filles, créer un prolongement. Et il faut que les filles restent dans la même norme. Ça arrive aussi. Hein.
Oui, probablement qu'il y a un peu de ça. Mais oui, je suis indulgente avec les mères. Je suis très indulgente avec les mères.
Je suis mère de 3 filles, donc je vous comprends. En tout cas, il y a le père, un taiseux qui est très réactionnaire. Et lui, il vit un drame avec toutes ces femmes.
Bah parce qu'il voulait un fils et il n'a eu que des filles. Mais lui, par contre, je le trouve beaucoup plus dur, beaucoup plus impitoyable dans son raisonnement quand il dit qu'il aurait volontiers donné ses 4 filles pour avoir un garçon.
Oui.
Lui, contrairement à la mère, il a quand même un discours très violent pour une enfance. Quand on grandit avec un père comme ça, pour Jeanne, on comprend pourquoi Jeanne a du mal quand même à oser.
Et pourquoi aussi ses sœurs, certaines sont parties loin, c'est également une question sur la condition des femmes.
Complètement.
Hein?
Complètement.
Oui.
Il y a celles qui peuvent partir, il y en a une qui est partie à Paris, l'autre à Toulouse. Il y a celles qui, à un moment, à 18 ans, ont l'énergie de partir. Et puis il y a celles, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la force, parce qu'elles ne partent pas à temps, parce qu'elles sont plus fragiles, et qui restent dans le giron, qui restent sur la géographie. Qui ne s'éloignent pas. Là, en l'occurrence, Carole et sa sœur ne sont pas parties, même si Carole est allée à la ville quand même, alors que Emma, la sœur, est restée carrément dans la cour familiale. Et pour Emma, c'est encore plus compliqué.
Oui, bien sûr. Claudie Gallet, je vous propose que vous lisiez un extrait donc, de La beauté des jours. Il s'agit de la famille et du père particulièrement.
Le père a plié le couteau et il s'est levé. Le bois était usé à la place de ses coudes. Les histoires de ventre, de sang, de chambre, c'est l'affaire des fendus. Il n'aimait pas qu'on parle de ça. Il n'avait fait naître que des pisseuses, des fentes, 4, c'était son drame, sa solitude. Et ça continuait dans la génération suivante. 3 filles chez Emma, 2 chez Jeanne, 2 pour Isa. Trop de filles, trop de mères, trop de femmes. Des histoires de sang, d'organes, de menstrues. Ça l'avait rendu sombre. Il y avait les gendres, mais les gendres ne sont pas le sang. Des pièces rapportées. Pas des vrais hommes pour la famille. Le père ne le disait plus, mais il l'avait dit qu'il aurait volontiers donné ses 4 filles contre un garçon. C'est pour ça. Pour les chiens, il avait toujours pris des mâles. Jeanne a planté les dents de sa fourchette dans le bouchon de vin. Elle a fait danser le bouchon au bord de la table. C'était très drôle, tout le monde a ri. Après, elle a imité sa sœur avec un gros ventre. Sa sœur qui marche, jambes écartées, qui pousse un landau. Il faisait chaud. La mère avait suspendu un rideau de lanières en plastique devant la porte. Zoé s'est glissée dans les lanières sales. Emma a voulu prendre des photos. Souriez, souriez, elle voulait toujours ça, des sourires qui feraient des souvenirs. Elle utilisait le flash, les yeux seraient rouges. Jeanne a détourné la tête. L'amé sommeillait dans son fauteuil. Une araignée tissait sa toile épaisse derrière elle, entre le mur et le buffet. Le chien était étendu sur le carrelage, à ses pieds. La table était longue. Le père en remontait toute la longueur. « Papa, souris s'il te plaît, tu pourrais faire un effort. » Pour l'effort du sourire, il lui aurait fallu la certitude d'un mal. « Souris, papa, continuait Emma. » Il sourit, a dit Zoé de sa voix étouffée. « Faudrait que ce soit un garçon cette fois quand même, » a grommelé le père. Un mâle qui ne porterait pas son nom, mais dont on dirait dans le village que c'est bien un bachot. Qui décide qu'il faut aimer ses parents ? Sylvie n'avait pas voulu d'enfant. La mère disait qu'elle finirait seule, que personne ne s'occuperait d'elle quand elle serait vieille. Le père est sorti, dans la cour, est allé pisser, dehors, dans le jardin, face au mur. Jeanne l'a suivi des yeux, son dos, sa nuque épaisse, plissée. Les pères normaux ne disent pas ça. Aucun père n'a le droit, aucun. Ni un père, ni personne. Il est obligé d'être comme ça ? Comment comme ça ? Jeanne s'est retournée, ses poings étaient serrés, les ongles dans les paumes, elle a regardé sa sœur. « Tu vois bien qu'on n'est pas une famille normale, ce n'est pas ça une famille normale !»« Arrête, arrête quoi ?» La mère frottait la table avec le chiffon humide. « C'est lui, il est comme ça, depuis le temps, tu devrais avoir l'habitude. » Les dimanches en famille fatiguaient beaucoup Jeanne, et pourtant elle n'en ratait aucun.
Elle n'en ratait aucun. Et alors, c'est vrai que l'on s'interroge souvent, ce sont les enfants les plus malmenés qui ont le plus de mal à couper le cordon ombilical, finalement.
Et c'est le cas de Jeanne. Elle revient. Elle revient tous les dimanches.
Elle attend quelque chose.
Elle attend un geste, elle attend l'amour, elle attend ce qui lui a toujours manqué. Elle attend un geste qui va la consoler, qui va la rassurer et qui va lui permettre de lâcher prise. Mmh. Tout ce qu'elle pleure sur la mort du père, tout ce qu'elle pleure à la fin, ce qu'elle n'a jamais osé pleurer devant lui, elle le pleure quand il n'est plus là, qu'il est quelque part trop tard.
Et alors vous posez également la question du secret de famille. On en a beaucoup parlé. Prochainement d'ailleurs, je vais interviewer un professeur en psychiatrie qui a écrit un livre, Secret de famille, professeur Schmitt, et on parle de ces lourds secrets. Et là, ce secret, c'est celui justement de... Elle est l'enfant de remplacement.
C'est ce qui est terrible chez Jeanne, c'est pour ça qu'elle revient toujours le dimanche. Mmh. Elle revient tout ça, pourquoi ? Pour se légitimer, elle a besoin d'être légitime, d'exister en tant qu'elle dans sa famille. Elle a été l'enfant de remplacement.
Oui.
Un enfant est né avant elle, est mort, elle est née après pour remplacer celui-ci, c'est terrible. Mais les secrets de... Ce qui est intéressant là, c'est que c'est un secret finalement de famille, mais tout le monde en a connaissance. Tout le monde a connaissance de ce frère qui aurait dû être ici, qui n'est pas là. On lui met la table. On lui met une assiette à chacun de ses anniversaires.
Il s'appelait Jean.
Mmh. Elle s'appelle Jeanne. C'est terrible de porter ça. Mmh. Oui, de porter ce poids de l'autre. Mmh. Ce poids de l'autre qui est en vous, qui est un garçon en plus, alors que vous êtes une fille. C'est une naissance compliquée. Il faut arriver à se détacher de ça. Elle s'en détache, je crois, à la fin. À la fin. Mmh. Elle gagne à la fin, Jeanne.
Bien sûr.
Parce qu'elle pleure
Elle gagne sur tous les points,
à
mon avis.
Elle gagne.
Voilà. Alors, il y a cette amie Suzanne, dont on a dit un mot tout à l'heure, cette vie compliquée, et un regard autre. Elles sont, vous l'avez dit, très différentes. Mais vous décrivez bien cette douleur intense que peuvent éprouver certaines personnes dont l'amour a été bafoué, en définitive.
Bah, Suzanne, elle n'a pas de... C'est pas une intellectuelle, c'est une... Elle ressent les choses sans vernis. Et quand elle a mal, elle a vraiment mal, elle ne s'épargne pas dans sa douleur. Il y a une scène quand un chapitre très fort où on la voit, Suzanne reçoit des amis à la maison, pas Suzanne, pardon, Jeanne reçoit des amis à la maison avec son mari, il y a des invités, et Suzanne arrive alors que c'est le moment du dessert, et elle est dans ce chagrin qui l'engloutit, qui la submerge complètement. Elle se retrouve dans la salle de bain toutes les deux et Suzanne parle, elle pleure en même temps, elle avale des gâteaux les uns après les autres. Elle va au fond de sa douleur. Mmh. Mais à côté de ça, quand elle rit, quand elle fait tout à fond. Voilà, oui. C'est ce que j'aime moi, chez elle.
Ah oui, elle est très différente aussi pour cela.
Et c'est pour ça qu'elles sont copines. Mmh. Et c'est pour ça. Mmh. Parce que je pense qu'on a besoin aussi de celui qui nous complète, qu'on a besoin de... Voilà, quelque part, Jeanne admire beaucoup Suzanne, ce côté à fond, mmh. Voilà, Suzanne n'a pas de barrière. Elle fait envie.
Elle fait ce qu'aimerait faire Jeanne.
Et ce que Jeanne n'ose pas faire. En tout cas, il y a un apprentissage de l'audace, il y a un apprentissage de la liberté.
Alors, nous allons écouter, mais une femme dans le fond qui était très libre, c'était Marlène Dietrich, qui pendant la guerre a dit non au nazisme, qui est partie du côté de l'armée américaine, et elle chante « Où vont les fleurs ?». Voilà, on va l'écouter, et c'est de votre choix, parce que la grand-mère
fredonne ça, c'est sa chanson, elle n'arrête pas de chanter cette chanson.
On l'écoute.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous? Je...
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, avec Claudie Gallet, en compagnie de Claudie Gallet, nous communions dans ce bonheur d'entendre la voix de Marlène Dietrich interprétant Où vont les fleurs. Hein, c'est Où vont les fleurs aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Voilà. Claudie Gallet, oui, nous reparlons, nous, de la beauté des jours. La beauté des jours, c'est le titre de votre nouveau roman. Et nous allons parler maintenant de l'addiction, je vais dire, de Jeanne à cette personne, cette artiste, Marina Abramović, qui existe effectivement, qui parfois fait scandale, qui est tout sauf banal. Bon, on aime, on n'aime pas. C'est assez... je ne sais pas. Elle est hors norme, elle est inattendue. Et dans le fond, elle aussi, à un autre degré que l'amie Suzanne, elle est très différente de Jeanne.
Et pourtant, elle est Jeanne, quelque part. Elle se ressemble énormément. Je crois que pour avoir vraiment énormément étudié Marina Abramović, Jeanne a en elle l'embryonnaire de Marina Abramović. Elle a en elle, on parlait tout à l'heure de fantaisie, le regard sur la vie, la façon de provoquer un petit peu le destin, de prendre des événements de sa vie et de les chambouler. C'est exactement ce que fait Marina Abramović. Marina Abramović a permis à Jeanne d'oser. C'est une
initiatrice.
C'est un miroir, un miroir. Je crois que Abramović est pour Jeanne un miroir de ce que Jeanne aurait pu être, de ce que Jeanne aurait aimé être, de quelqu'un de grand qui nous fait regarder un peu plus haut.
Qu'elle n'a pas le courage d'être.
Alors le courage, non. Enfin, je pense pas. Non, je pense que c'est pas une question de courage. C'est une question. C'est la vie qui vous met, qui vous fait naître quelque part, qui vous met le poids. On reparle tout à l'heure, le poids familial, tout cela, et qui fait que vous n'avez pas forcément le courage. C'est non. Je crois qu'il faut plus que du courage. Là, c'est des hasards.
Chère Marina, j'ai deux filles, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, et j'adore la mer, les artistes, les arbres et les rencontres. À la médiathèque, je feuillette des masses de journaux, je cherche partout si on parle de vous. J'ai lu que vous serez bientôt à Londres. Je vous envoie ce petit mot là-bas, une enveloppe à votre nom et au bon soin du galériste. J'espère qu'il vous la fera suivre. Il faudrait que je puisse aller vous voir. Bien sûr, ce sera plus facile si c'était vous qui veniez. Faites-moi signe si un jour vous êtes de passage à Paris. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais pour le billet, je me débrouillerai. Elle a arrêté d'écrire. Oui, souvent elle arrête d'écrire et souvent elle n'envoie pas ses lettres.
Oh, elle les envoie presque toutes. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle écrit sans attendre de réponse et elle ne parle de Marina à personne. C'est vraiment son jardin secret. Quand elle en parle, les gens ne comprennent pas. Elle comprend pas. Voilà l'intérêt que Jeanne porte à cet artiste. Donc souvent elle se tait, elle ne finit pas ses phrases. Mais les lettres, il y en a quelques-unes qu'elle n'envoie pas, oui, mais la plupart, elle les envoie.
En réponse à ce que vous avez dit, oui, j'avais noté une phrase, ce que vous faites me console de moi.
Mais oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Jeanne, elle sent bien qu'elle n'a pas un grand destin, qu'elle n'a pas... C'est pas une femme puissante, c'est pas une femme qui est dans la lumière. Mais elle sait bien qu'elle a quand même au fond d'elle ce petit battement, ce petit... sous forme larvaire qu'elle avait quand même, oui, une petite pépite d'artiste, qu'elle avait une petite brillance à l'intérieur qu'elle aurait pu développer si elle avait fait les bonnes rencontres. Si c'est toujours pareil, c'est toujours nos vies, c'est des questions de choix. À un moment, vous rencontrez une personne qui va vous aider, qui va vous tendre la main, qui va vous mettre un livre dans la main. Moi, j'ai eu la chance, à 18 ans même pas, à 17 ans et demi, de rencontrer quelqu'un, un homme qui était passionné de lecture et qui m'a mis mes premières lectures dans les mains, et qui m'a fait lire. Je n'étais pas une intellectuelle, il m'a dit « lis ça ». C'était des textes au début faciles à comprendre, et puis petit à petit j'ai progressé. Et ça, c'est important, les rencontres.
Il y a des rencontres, mais il y a également, vous avez fait un choix. Quand je parlais de volonté, il y a peut-être parfois, à un moment donné, non.
Il faut oser, il y a un moment...
Il faut oser.
Oui, il faut
mais
oser.
J'ai
mais à la fin, Jeanne, elle ose.
Oui.
Elle a énormément progressé.
Vous posez la question de l'art libérateur, parce que dans le fond, c'est ce à quoi elle croit.
Oui,
l'art peut libérer.
L'art peut libérer, l'art peut rendre la vie beaucoup plus belle, l'art peut nous grandir. il nous grandit. On n'est pas simplement un estomac à nourrir, on a besoin de quelque chose de plus grand. Il nous, dans des situations extrêmes, je pense, dans les camps de concentration, on raconte, Georges Semprin racontait que avec des amis, des compagnons d'infortune, dans les camps de déportation, ils échangeaient, ils essayaient de retrouver des romans, tous les uns, le début, le milieu, la fin, et on continue, et là, il se passait quoi et tout. Bien sûr, l'art est très très important.
En même temps, bon, ce qu'elle peut voir aussi, parce qu'elle connaît tout de la vie de Marina Abramović, elle peut voir aussi que Marina, finalement, souffre et connaît la solitude.
Alors ça, c'est le problème de Marina. Elle a eu une enfance écrasée. Elle le dit elle-même pendant...
Elle est serbe, hein, je crois.
Elle est serbe. Oui. Elle est née dans le Monténégro. Elle est serbe de parents communistes très, très, très autoritaires qui ont étouffé la petite fille qu'elle était, qui l'ont amoindrie. Elle avait un frère, c'est le frère qui aurait dû réussir. Elle n'était que la fille. Là aussi, il y a une résonance avec Jeanne. On retrouve Jeanne et ce sentiment d'infériorité, finalement, et la condition de la femme. C'est à partir de cette enfance écrasée que Marina... a construit sa carrière, a construit, il fallait qu'elle réussisse sa carrière, il fallait, et pour ça elle a sacrifié. C'est quelqu'un qui a eu des amours passionnés, elle a sacrifié à chaque fois, elle les a perdus parce que elle mettait l'art, elle mettait ce qu'elle devait
au-dessus
faire
de tout.
Au-dessus, elle disait l'amour ne dure pas, donc voilà, je le sacrifie alors que l'art, la beauté, ça dure. Mais au bout de sa vie, maintenant elle a 71 ans, elle est à New York, elle ne peut pas, elle est au summum de son art, mais elle dit, je donnerais beaucoup pour me réveiller un matin avec quelqu'un dont j'aurais partagé la vie, de boire un café, de parler tranquillement de la journée qui va se dérouler, de ce qu'on va faire. Et c'est exactement cette vie tranquille auquel aspire aujourd'hui Marina Abramović, c'est exactement la vie que Jeanne a. Jeanne se lève le matin, elle a une vie tranquille avec Rémi.
Et elle est entourée, elle a de la présence et entourée d'affection aussi.
Jeanne ?
Oui.
Oui.
C'est
oui.
important.
Elle est aimée par...
Oui. Elle est aimée par beaucoup de gens.
Elle est aimée. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est forte. Oui. C'est à la fois sa faiblesse. Parce que l'amour des siens, l'amour de sa sœur, l'amour de Zoé, la petite Zoé, l'amour de Suzanne, tout ça la retient.
En même temps, je pense qu'il faut toujours garder le rêve. Elle ne va pas réaliser tout ce dont elle rêve, mais c'est tant mieux. Peut-être qu'en effet, il faut qu'elle garde une part de rêve.
Ben c'est ce qui...
Là, je sais que je vous surprends.
Non, vous ne me surprenez pas. Non, parce que c'est pas de la frustration.
Non,
voilà,
non,
c'est non. du rêve.
Voilà.
Continuer à avoir envie de, continuer à rêver de. Alors, on n'a pas parlé de Martin.
On va y arriver, justement. Ah. Parce qu'en plus, il faut penser qu'elle est à un âge charnière. Bon, j'aime pas trop ce terme. Mais enfin, à un moment donné, elle dit, mais c'est la première. J'arrive à la fin de la première moitié de ma vie. C'est pas tout à fait faux. Un âge charnière, elle fait le bilan de ce qu'elle a fait. Et puis bon, maintenant, bon, elle a peut-être envie de goûter à ce qu'elle n'a pas connu. Bon, un amour fou, il y a ça. Parce qu'à un moment donné, elle voit un couple sur la plage.
Elle les regarde s'embrasser, elle les regarde se caresser.
Avec une envie.
Et on sent qu'elle a le désir d'être à sa place, d'être à la place de la femme qu'elle observe. Oui.
Voilà. Ouais. Elle a envie d'être à nouveau amoureuse. Je pense que son mari, elle l'a aimé, mais elle a, bon, c'est de la tendresse. Elle a envie de ça. Et elle a besoin de sortir du cadre, justement, je reviens à ce cadre, moi, ça m'a obsédée. Elle a besoin de neuf, de vie, de surprise.
Oui, elle a besoin de s'amuser, oui, elle a besoin d'être surprise, c'est vrai.
Donc il arrive à point, ce Martin qu'elle connaissait, dont elle était amoureuse à une époque, il tombe bien.
Ah, il tombe très très bien. Il tombe très très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va le. Peut-être que s'il était ça aussi, c'est la magie des rencontres, des retrouvailles. Peut-être que si elle l'avait rencontré, retrouvé un mois plus tôt, ils se seraient simplement salués, ils auraient pris un café ensemble, et puis chacun aurait repris sa vie de son côté. Oui, c'était le bon moment pour qu'elle le croise.
C'est un personnage un peu fantasmé quand même.
Dans ces retrouvailles-là, oui, je crois qu'on ne revit pas. un amour d'adolescent. Oui. Voilà, c'est bien sûr, c'est fantasmé, mais c'est beau aussi parce que justement, c'est ce qui fait le pont. C'est ce qui fait le pont avec l'adolescence, c'est ces émotions très fortes. Mais non, non, on ne peut pas. Enfin, je crois qu'on ne revit pas ces histoires.
Alors, vous voyez, là, je n'ai pas pensé à vous parler du mari. Et le mari, effectivement, il est calme, il est conciliant, il est rationnel, il est aimant. Il est très aimant et je trouve qu'il est très bienveillant avec sa femme. Et il est extrêmement bienveillant et rationnel et vis-à-vis d'Abramovitch, particulièrement étonné et sans doute un peu critique. Alors j'aimerais bien que vous me lisiez, si vous voulez bien, Claudie Gallet, cet extrait, ce passage où on parle de Claudie Gallet parce qu'il dit « Elle a quoi de spécial cette fille ?» Et c'est vrai que beaucoup de gens vont poser cette question. Donc, il s'agit de l'époux qui pose une question à sa femme, Jeanne, sur Marina Abramovitch, donc cette artiste assez étonnante.
Elle a quoi de spécial, cette fille ? Tout. Tout, c'est quoi ? Comment expliquer ? Elle ne se contente pas de vivre. Elle part de sa vie, un quotidien simple, son amour avec Uley, sa terreur des serpents, la honte, la solitude, elle transforme ça. Elle nous dit qu'il faut dépasser nos peurs. Si elle le fait, on peut le faire. Elle ne recule devant rien, va jusqu'à mettre son existence et ses amours en jeu. En racontant sa vie, elle raconte la vie des autres et atteint ainsi quelque chose qui a la forme d'une vérité commune. Rémi a pris le livre, il avait les mains sales, elle n'a pas aimé la façon désinvolte dont il a tourné les pages. Jeanne lui a repris le livre des mains. Elle a frotté la couverture pour enlever la poussière. Il y a une force en elle qui libère ceux qui la regardent. C'est tout ce qu'elle est parvenue à dire. Mais c'était ça. Ça exactement. Une force libératrice. Il a sifflé et c'est tout ? Oui. Et elle te libère, toi ? Un peu. Jeanne a remis le livre à sa place. « Je voudrais être comme elle. » Des fois, j'essaye, je fais des trucs, et puis j'arrête. C'est ça la différence entre elle et moi. Elle ne s'arrête pas, même si ça lui fait mal, même si ça lui fait peur, même si tout le monde s'en fout, elle va au bout. Jeanne s'était un peu emballée, elle s'est excusée. Il y a eu un moment de silence, Rémi la regardait bizarrement. « Peut-être, mais tu es bien mieux qu'elle. Moi ?» Jeanne a ri fort, nerveusement. « Moi, je suis tellement, tellement... »« Tu es tellement quoi ?» Entravée, empêchée, prévisible. Elle l'a pensé, qu'elle subissait sa vie plus qu'elle ne la décidait. Elle ne l'a pas dit. Rémi s'est avancé jusqu'à la cuisine et puis il s'est ravisé. « Tu es plus forte, bien plus forte qu'elle. » Elle n'a créé que du vent. Jeanne a fait non avec la tête, un nombre infini de fois. Le vent, c'est moi. Non, tu n'es pas du vent. Tu n'as pas compris qui tu es. Jeanne a ri, elle a rougi en même temps. Mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Tu as des choses qu'elle n'a pas. Moi, des choses comme quoi ? Je n'ai rien. Rémi s'est détourné lentement. Moi et les filles, ce n'est pas rien.
Très très beau passage, parce que finalement ils ont raison tous les deux.
Les deux vies sont défendables, bien sûr qu'ils ont raison tous les deux. On a à la fois, Rémi défend sa vie, sa zone de confort, cette vie simple mais pleine d'amour et pleine d'une histoire. Parce que
bien sûr, c'est tangible.
Bien sûr, 20 ans de vie de commune où on a des souvenirs, on a tissé notre existence avec quelqu'un et ça il le défend.
Oui.
Et à la fin, je répète, Marina Abramovitch maintenant c'est cela qu'elle regrette. Elle dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas tissé quelque chose de solide
avec
quelqu'un.
Elle n'a pas d'enfant, pas de compagnon. Ouais. Martin, cet amour de jeunesse que Jeanne va retrouver, ne lui posera pas cette question. Il est artiste, il est cultivé, il aime la poésie, les arts. Et d'ailleurs, nous allons faire une pause musicale. On va écouter une musique qui a accompagné un film magnifique, L'île nue, ce qui se passe au Japon. Et après, on racontera, vous direz pourquoi j'ai pensé au Japon.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous avons entendu un extrait de la musique du film L'île nue, un film ancien mais très beau, un film en noir et blanc, un film japonais. Et nous allons parler, et pourquoi le Japon ? En fait, donc, Martin, c'est cet amour de jeunesse qu'elle retrouve totalement par hasard. C'est un initiateur. Il va voir en elle cette appétence, cette envie d'apprendre, de ce besoin d'être conseillé également, peut-être.
Mais c'est-à-dire qu'il l'a connue quand elle avait 15 ans.
Oui.
Donc, il connaît la Jeanne, j'allais dire la Jeanne profonde, la Jeanne sans vernis, la Jeanne, c'est cette Jeanne artiste, il la connaît, il la retrouve 20 ans plus tard. C'est le hasard a fait qu'ils ne se sont pas, oui, que leur histoire ne se vive pas. Le destin, une erreur de rendez-vous, quelque chose qui ne se passe pas. Voilà, à 15 ans, leurs chemins se sont séparés. Ils se retrouvent là. Il a envie de l'entraîner. Il ne la brusque pas, mais c'est vrai qu'il a envie de l'emmener avec lui.
Oui, oui, oui. Parce qu'un lien se tisse très fort. Elle dit, maintenant c'était régulier, quand elle allumait l'écran, elle trouvait ses messages. Il s'écrivait plusieurs fois par jour. Dans son dernier mail, il est au bord du lac Léman. Il a joint une photo, un lac de lumière. Le matin, il est couvert de brume. Je suis sûre que ça te plairait. Il dit qu'il y a un musée d'art brut à Lausanne. Là, il se souvient qu'elle aimait ça avant. Il lui donne un lien internet. Il dit qu'il s'attarde un peu chez des amis à Genève, qu'il fera un rapide crochet ensuite par Annecy. Il en va envisager devant sa maison, c'est un héritage de ses parents, ça lui arrachait le cœur, mais elle était trop grande pour lui. Il est 23h32 quand il a écrit cela. Une heure palindrome. Ah oui.
Ah oui, ça c'est les palindromes. Ouais, c'est des échanges par mail, par email. Hein. Voilà. Ils sont loin l'un de l'autre. Là, c'est un moment où il est reparti, lui, pour son travail. Il s'est éloigné.
Oui, et il répond que la fin des choses est toujours contenue dans leur début. Elle écrit « Tu es un homme de lac ». Il répond « Je crois que tu es une femme de lac aussi. » Soudain, c'est très intime. Elle en ressent l'émotion. Elle reste un long moment à fixer l'écran. Elle cherche des mots pour répondre. Rien ne convient. Alors elle écrit « Je vais dormir. À demain. »
Ouais, c'est sur le fil. C'est voilà. Très sensible. On ne dit pas plus.
Voilà, exactement. C'est très ténu. C'est très... oui.
Quand il lui dit « Tu es une femme de lac aussi »,
oui,
c'est une invitation.
Oui.
Il ne va pas lui dire « Viens me rejoindre ». Ça serait trop brutal. Mmh. Ça ne leur ressemble pas. « Tu es une femme de lac aussi ». Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas répondre.
Oui. Alors oui, c'est ça. Il y a une forme d'esquisse, d'intermittence, de sensualité.
C'est très sensuel, c'est des retrouvailles délicates, lentes. Tout à l'heure, on parlait du personnage de Suzanne, qui, elle, est brutale et y va à fond. Ces deux-là, ils se rapprochent, ils se retrouvent, ils se frôlent. En fait, c'est de l'effleurement. Oui. C'est très beau dans cette rencontre.
Absolument.
J'avais écrit un roman qui s'appelait « Seule Venise », où également la narratrice se rapprochait d'un libraire. Et c'était un peu le même jeu de... Oui, très sensuel. On ne se rapproche pas de l'autre violemment, on y va en lenteur.
Et dans le fond, ça lui donne la possibilité de sortir du cadre.
Vous revenez à votre cadre, oui. Sa zone de confort, voilà, sa zone de sécurité. Elle sort doucement, elle a besoin de temps.
Et elle a des choix à faire. Alors, en fait, ce choix, bon, c'est difficile de ne pas en parler, parce que dans le fond, le fait de rester dans une idée sublimée de l'amour, de ne pas trahir aussi ceux qu'il aime. Il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Enfin, on ne va pas dire ce qu'elle va faire, mais enfin, elle a un choix. Ça, c'est important.
Mais c'est la dualité entre la fidélité à l'autre, c'est-à-dire à celui avec qui elle partage sa vie, et la fidélité à elle-même. Est-ce qu'elle ressent ? Est-ce qu'elle ressent profondément ? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle doit choisir ? C'est compliqué, c'est pour ça qu'elle avance avec... Et puis, elle n'était pas préparée à ça. En fait, Jeanne, je pense qu'elle n'était pas préparée à ça. Elle n'avait jamais pensé revoir Martin, elle n'avait jamais pensé qu'un homme comme ça viendrait chambouler son quotidien, viendrait chambouler ses habitudes, ses sentiments, son corps. Parce qu'il l'a...
Il a le désir.
Elle ressent le désir, elle ressent... Chose qu'elle avait perdue. Elle avait perdu ce chemin, ce langage-là. Donc, pour elle, c'est qu'elle... Mais à la fois, je dis... Elle ne l'avait pas prévu, et pourtant, elle est disponible. elle s'ouvre à cela, elle y va lentement, mais elle y va. Donc il y a une partie d'elle quand même qui était en attente de cette rencontre, de cette retrouvaille. Elle a besoin d'aimer, elle a besoin de revivre, d'éprouver à nouveau ce sentiment. Elle a vraiment besoin de ça.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi très beau dans votre ouvrage, c'est cette poésie dans ce qui pourrait se réaliser et qu'on va laisser à l'état de rêve. Justement, tout à l'heure, hors antenne, on a parlé de ce film « In the Mood of Love ». C'est exactement ça. Deux êtres qui se rencontrent, leurs conjoints respectifs se sont rencontrés et donc les trompent en quelque sorte. Et eux se rapprochent, deviennent plus intimes et finalement tout restera à l'état de possibilité, la possibilité de quelque chose.
Mais c'est très beau aussi quand... un homme, une femme se rencontrent, on a souvent dans notre... je reprends les deux personnages dans Seule Venise, qui se rencontrent, qui se croisent, on sent qu'ils se désirent, qu'ils ont envie d'aller plus loin, et pourtant, rien ne se passe. Et pourtant, je dirais, tout se passe.
Exactement.
Tout se passe. Ouais. L'essentiel d'une relation entre un homme et une femme a existé et se passe. Voilà, après... voilà, je trouve que c'est un moment très très important avant la rencontre. On rencontre l'autre, on l'approche, on sent que ce qu'on ressent, il le ressent aussi. Et on avance, c'est infiniment fragile, c'est une prise de risque énorme.
Oui, absolument.
Tendre la main et dire à l'autre, faire comprendre à l'autre, et si je suis rejetée, ça peut être très violent, il faut être très solide pour encaisser le rejet de l'autre, de son désir.
Dans le fond, moi, je trouve qu'elle a atteint cette liberté, la liberté de l'esprit.
La liberté de l'esprit, ce que vous dites, Jeanne. Je pense qu'elle a encore du chemin, mais elle a fait énormément. À la fin du livre, elle a fait énormément, énormément de chemin.
Alors, on va juste un petit peu parler. Claudie, vous allez dire autre chose, mais c'est vrai que le temps... Oui. Ça, voilà. Le style aussi, j'ai beaucoup aimé, de courts chapitres. Et puis l'écriture, c'est parfois du pointillisme, la trace du quotidien avec force détail. Et puis ça nous aide c'est une manière de nous aider à visualiser également, hein, d'être dans le livre. Parfois il y a le langage à l'audiard, quand c'est Suzanne ou le père. Et puis de l'humour, dans la gouaille de Suzanne, justement, dans la mort ratée de la grand-mère, on trouve aussi de l'humour. Et il y a des choses, des détails qui font rire. Et qui font rêver. Voilà. Un grand merci, Claudie Gallet. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de La beauté des jours, paru chez Actes Sud. Un grand merci.
Merci à vous.